Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cyanociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, vous le savez, n'a pas à proprement parler le goût des franchises en ce moment. Un peu lassé que nous sommes de subir à échéance régulière ces retrouvailles forcées avec des univers et des galaxies de personnages qui n'ont pas grand-chose à nous raconter. Mais ce serait mentir que de dire que nous mettons toutes ces suites et resuites dans un seul et même panier. Non, ne soyons pas défaitistes, certaines sagas continuent de nous faire frétiller les neurones. C'est le cas notamment de Mission Impossible qui, avec le temps, passant de main en main sous la houlette d'un Tom Cruise omniprésent, réussit à nous maintenir en éveil, aussi c'est avec un grand intérêt et hypé par des bandes annonces très alléchante que nous attendions le 6ème épisode des aventures ciné d'Ethan Hunt, dont nous allons causer là tout de suite avec un trio d'espions qui m'aimait réunis ici à l'antenne Paris. Daniel Andreev, salut Daniel.
Bonjour.
Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Et Perrine Kenson, salut Perrine.
Coucou Thomas.
C'est nos ciné épisode 148 et c'est parti.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Mission Impossible 6 Fallout, c'est son petit nom. Il fait donc suite à Rogue Nation, sorti il y a 3 ans. On y retrouve donc ce bon vieil Ethan Hunt, alias Tom Cruise, et son équipe de choc, Ilsa, Benji, Luther, soit dans l'ordre Rebecca Ferguson, Simon Pegg et Ving Rhames, qui vont devoir redoubler d'intelligence et d'ingéniosité pour empêcher d'odieux personnages d'arriver à leur fin après l'échec total d'une de leurs missions.
How many times has Hunt's government betrayed him, disavowed him, cast him aside? How long before a man like that has had enough? You can't break the pressure. So you can't break the pressure. So you can't break the friction.
Derrière la caméra, c'est Christopher McQuarrie, réal du précédent, qui rempile, et outre les acteurs précités au casting, on trouve notamment un nouveau, Henry Cavill, et d'autres anciens, dont Sean Harris et Alec Baldwin, qui rempile, ou encore Michelle Monaghan, qui est de retour après avoir séché le précédent film. Votre avis sur ce Mission Impossible 6, les amis? Alors la liesse populaire, la démocratie de nos ciné a désigné Stéphane Moïsakis pour être le premier.
Allez,
à parler.
Stéphane,
c'est toi qui commence. Pour une fois. Pour une fois.
T'es champion.
C'est difficile, en fait. C'est difficile. Enfin, je suis très très mitigé moi sur cet épisode pour plusieurs raisons. Je trouve que au bout du 6ème épisode, que ce soit en gros un épisode où on court derrière le plutonium, je trouve ça quand même assez, enfin que ce soit le MacGuffin, on va dire entre guillemets, de derrière lequel on court, je trouve ça assez feignant de la part de McQuarrie. Je trouve aussi que c'est un film qui fait 2h30 et pour pas les bonnes raisons en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment un film qui fait 2h30 parce qu'il délaye beaucoup beaucoup de ses scènes. Alors parfois pour comment dire des bonnes raisons, je vais y revenir, et parfois en fait pour des mauvaises raisons, enfin la plupart du temps pour des mauvaises raisons, parce que je trouve que le scénar finalement est assez anecdotique, surtout quand tu le compares en fait au précédent qui était un peu plus moi je pensais justement que s'il allait prendre 2h30 c'est parce qu'il avait en fait en gros si tu veux un énorme complot à l'intérieur, et en fait c'est exactement l'inverse, il enlève carrément des trucs par rapport au précédent quoi. Voilà, le film commence bon c'est le manuel du scénariste 101 hein, comme on dit aux États-Unis, mais le film commence en fait sur Tom Cruise qui reçoit un exemplaire de l'Odyssée, tu vois, qui l'ouvre et c'est son ordre de mission, tu vois. Et bon bah t'as pas besoin d'aller très loin si t'as lu l'Odyssée pour comprendre que en gros si tu veux toute l'idée de Tom Cruise, c'est de rentrer à la maison et de rentrer à la maison à sa femme, auprès de sa femme. Tu vois, c'est le principe de l'Odyssée. Et c'est le principe du film, en fait. En gros, c'est moi ce qui m'intéresse dans le film, en tout cas, au-delà des scènes d'action. C'est sa relation alors, avec les deux personnages féminins principaux. Donc, Michelle Monaghan, que tu as cité, qui était sa femme, en fait, à partir du 3. Qui est un problème du film là-dedans, je trouve, en l'occurrence, parce que c'est quelque chose qui est... tient en fait sur une base assez anecdotique en fait, parce que le personnage est pas très intéressant, ils ont essayé de le faire revenir vaguement à la fin du 4 pour pour une continuité.
Elle faisait un caméo à la fin du 4.
Pour expliquer, en fait, en gros, si tu veux, que d'un seul coup, à partir du 3, il y a une histoire, il y a un plot qui se suit, quoi. Ouais. Et à côté de ça, il y a cet autre personnage qui est le personnage d'Ilsa, qui est beaucoup plus intéressant. Ouais. Parce qu'il a été, pour le coup, lui, vraiment posé dans l'épisode précédent. Je crois qu'on avait fait un épisode sur Mission Impossible, en fait, spécial, en fait, ouais, qui a peut-être été diffusé.
Ah oui, on a enregistré une spéciale Mission Impossible.
Voilà. Et comme disait Perrine dans cet épisode-là, ce qui était intéressant, c'est que c'est l'alter ego d'Ethan Hunt, oui. En fait. Et ça, c'est clairement quelque chose qui est lié en opposition, en fait, qui les met en opposition à un moment donné dans le film et qui fonctionne bien. Donc, sur le macro, je trouve ça assez raté, c'est-à-dire que vraiment, le pourquoi, en fait, d'un seul coup, on est à Paris, puis ensuite on est à Londres, et puis ensuite on est à, tu vois, je sais plus où. Dans le Cachemire ou je sais pas quoi. Enfin, pourquoi en fait tout ça, je trouve que c'est assez bateau, quoi. Mais par contre, les liens entre les personnages, il y a quelques petits trucs qui fonctionnent vraiment bien. Il y a une très belle scène, moi je trouve très bien. Elles sont très bien écrites, en fait, les scènes de conversation entre Tom Cruise et Ilsa. Notamment, il y a une scène dans je sais plus quel jardin de Paris, qui est vraiment assez jolie, quoi, qui fonctionne vraiment bien au Palais Royal. Voilà. Et voilà. Après, il y a moi l'autre gros souci que j'ai en fait avec le film, c'est la lumière. C'est-à-dire que je trouve que c'est une lumière extrêmement générique pour un film actuel. C'est-à-dire, et je parle pas de la machinerie, hein. Je parle pas en fait de certains plans, parce qu'il y a quand même des plans assez impressionnants dans le film, notamment dans les poursuites à moto dans Paris, où ils essayent vraiment de retrouver un espèce de type de plan. En fait, ce que j'avais pas vu depuis Die Hard 3 et Matrix Reloaded, en fait, où en fait ils doublent des voitures numériques et ils font passer la caméra à travers, etc. Ce qui est toujours assez impressionnant quand c'est bien foutu. Et là, t'en as pas mal de plans comme ça. Mais en fait, je trouve que j'ai l'impression de voir une démo 8K, si tu veux, un peu comme les films de Villeneuve, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai le dernier truc, en fait, qui va devant de la télé qui tue. Et en fait, on capte avec la résolution, l'hyper résolution, qui va capter, en fait, le réel, entre guillemets, si tu veux. Mais pour moi, ça, à partir de ce moment-là où tu privilégies plus ça qu'une espèce de recréation, en fait, j'ai envie de dire. Hyper réaliste, comme on dit dans le cinéma, j'ai tendance à penser que malgré la lumière naturelle, et tout ça, que ça risque de se perdre un peu en fait, au fur et à mesure du temps, et que ça risque de vieillir un peu plus que parce que en fait, c'est lié à ce que les caméras actuelles peuvent faire. Oui. Voilà. J'exagère un peu, hein. Il y a quand même un peu de travail chiadé, hein. Je vais pas dire que voilà. Mais ça fait partie des trucs qui me posent problème, parce que d'un seul coup, même si c'est le principe de Mission Impossible, d'avoir une esthétique différente entre chaque film, et ça, il a changé de chef op Chris McQuarrie exprès pour être dans cette continuité-là. Ben, en fait, c'est pas cohérent avec le projet même du film, qui est une suite directe du précédent, quoi. Et voilà. Donc, d'un seul coup, c'est le problème que j'ai, c'est que du coup, j'ai l'impression de voir un double épisode, plus, si tu veux, de, je sais pas, de fin de saison, ou je sais pas quoi, tu vois, d'une série télé, plutôt que, un vrai film de cinéma, ce qui, jusque-là, à part Mission Impossible 3, était plus ou moins ce que j'avais avec les Missions Impossibles de manière générale. Et voilà. J'imagine que les autres vont parler d'Henri Cavill, tout ça, mais c'est aussi un gros problème, hein, dans le film.
Il a de la barbe, pour une fois.
Il a la moustache, on a retrouvé la moustache de Superman, quoi. Mais le truc, c'est que, et en plus, le seul véritable intérêt, en fait, si tu veux, j'ai l'impression de lui mettre une moustache, c'est d'en faire un adulte dans le film, ce qui est quand même très étonnant, parce que je vais peut-être pas spoiler qui c'est vraiment dans le film, mais bon, même si quand tu regardes la bande-annonce tu t'en doutes un peu, mais voilà, en fait, j'ai l'impression que la moustache, c'est vraiment pour lui donner un côté un peu old school, viril, qu'il peut avoir, hein, dans l'absolu, moi j'ai rien contre lui, mais je veux dire, j'ai pas de je pense que c'est un acteur qui peut voilà, mais c'est juste que en fait ça fait bizarre de voir on va dire un antagoniste à Tom Cruise qui fait deux fois moins que son âge, tu vois. Donc d'un seul coup, en fait, t'as l'impression qu'ils ont eu besoin de le vieillir un petit peu. Et voilà, l'autre truc, c'est que Tom Cruise, ça aussi, je vais faire ma mauvaise langue, ça commence un peu à se voir, le Botox. Aussi, non mais c'est vrai, enfin tu vois, on le dit pour les actrices, alors on peut le dire pour les mecs aussi, quoi. Tu vois, donc ils commencent un peu à ressembler à une pomme rainette. Donc c'est des moments, il y a des moments, il y a des plans, c'est embarrassant, mais bon, après voilà, ça reste mais enfin tout ça, je le dis un peu méchamment, mais je le dis en comparaison aux autres aussi, en fait, c'est ça, oui, le truc, c'est-à-dire que ça fait partie des trucs où à chaud comme ça, je suis sorti, je me suis dit putain,
c'était pas aussi bien que ce que tu aurais espéré.
J'aurais espéré que ça soit un peu plus tenu, en fait.
Périne.
Je suis un peu moins mitigée, un petit peu moins dure peut-être que Stéphane à ce niveau-là. C'est-à-dire que honnêtement, quand je suis sortie du film, la première impression que j'ai eue, c'était what a ride, quoi. J'ai vraiment eu l'impression d'en avoir pris plein la gueule pendant 2h30. Et ce qui m'a fait plaisir, en fait, c'est-à-dire que j'y allais aussi pour ça, j'y allais pour le spectacle. Et clairement, alors ça peut être un reproche ou une qualité, c'est-à-dire que chaque épisode essaye encore une fois de battre ce qu'a fait le précédent en termes d'action, en termes de visuel. Et là, on se demande encore, ça me fait penser un peu à Fast and Furious, c'est-à-dire à quel moment on a eu le tank, on a eu le sous-marin.
Cette comparaison.
Oui, il faut que j'arrête avec Fast and Furious. C'est vrai que je ramène tout à Fast and Furious. Mais voilà, mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Bon, à un moment donné, je dirais pas plus qu'il y a un truc avec des hélicoptères. Ouais, ça fera beaucoup plaisir à Daniel, ça c'est sûr.
Un kink avec les hélicoptères,
t'as dû être content.
C'est comme moi avec les motos, en fait.
Oui, c'est ça.
Chacun son
véhicule.
Ouais, moi je préfère les tanks, après chacun son truc. Mais bon, voilà. Et donc, résultat, voilà, il y a un truc un petit peu toujours plus, qui, pour le coup, m'amuse beaucoup dans le film, mais après, qui, sérieusement, fait durer des scènes. Et pour arriver à 2h30, où c'est pas nécessaire d'avoir 2h30, clairement. Parce qu'en plus, ces 2h30, cet étirement du film, fait que pour moi, pour le coup, ça m'a gêné dans la compréhension du plot du film. C'est-à-dire que là où le 5 était très clair, était très précis, on savait exactement où on en était, et surtout avec cette définition du personnage d'Ilsa qui était très très bien amenée dans le film, là, dans le film, clairement, il essaye plus de créer de personnages, il essaye plus de et il fait une intrigue qui est peut-être compliqué de manière inutile, très compliqué. Moi, je savais plus ce qu'était l'enjeu et qui avait les trucs de plutonium, si c'était les apôtres ou pas les apôtres. J'ai rien pigé à un moment donné. Et donc, c'est dommage parce que s'il y a bien un truc que j'aime beaucoup dans Mission Impossible, c'est que c'est très clair la plupart du temps. C'est qu'on arrive tout, même si c'est compliqué, qu'on a la sensation de se faire avoir et hop, j'enlève le masque et oh mon Dieu, c'était lui. On arrive quand même toujours à suivre. Et là, il y a quand même des petites complications qui font que. Alors après, on se rabat sur autre chose complètement. Et je suis d'accord avec Stéphane sur les relations avec les personnages féminins. Moi, je trouve que pour le coup, le personnage de Michelle Monaghan, certes, il n'est pas très utile ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il met une fin à cette histoire-là qui est plutôt pas mal, qui est plutôt intéressante. Ça y est, on clôt le débat sur Michelle Monaghan.
En fait, c'est juste qu'il n'y avait pas de début, en fait. Donc c'est ça le problème pour moi.
Comme il l'avait refait revenir à un moment donné du cadre, il fallait bien qu'il clôt le débat, en fait. C'est-à-dire que c'était peut-être une erreur ou pas, mais en tout cas, il fallait clore le débat. Et je trouvais ça pas si mal. Je trouve que c'est une fin apaisée, c'est une fin intéressante. Ça me plaît bien. Le rapprochement avec Ilsa et surtout cette création qui était déjà dans le 5, hein, vraiment, mais l'espèce de Scooby Gang qu'ils sont en train de faire avec Simon Pegg, Ving Rhames et maintenant Ilsa qui est clairement a rejoint le groupe. Je trouve que c'est très agréable. On prend aussi un truc un petit peu cartoonesque, notamment je trouvais que le personnage de Cavill justement quelque chose d'assez cartoonesque. J'ai l'impression qu'on l'a sorti tout droit de Man from U.N.C.L.E. C'était quoi le titre français de Man from U.N.C.L.E.?
Les agents très spéciaux.
Les agents très spéciaux, voilà. Qu'on l'a sorti un petit peu tout droit de ça, donc il surjoue quelque chose. C'est pour ça qu'on a un peu du mal à le prendre au sérieux, et clairement la bande-annonce trahit tout le truc, donc ce n'est jamais un enjeu, ce personnage, il n'est jamais un enjeu, mais il offre quelques scènes intéressantes, quelques fulgurances dans le film, et ce côté un peu cartoon par moment, surtout sur la fin. Mais voilà, après je trouve, voilà, c'est un épisode qui pour moi est en dessous du 5, mais reste quelque chose de terriblement agréable à regarder, terriblement divertissant, c'est aussi ce qu'on cherche quand on va voir Mission Impossible, quelque chose d'être assez diverti. Après voilà, je trouve que c'est pas justement, c'est peut-être l'épisode qui en dit le moins sur ce qu'est Tom Cruise à l'heure actuelle, mais en même temps c'est Tom Cruise qui clairement dit maintenant qu'il fait partie d'une équipe, et je trouve que ça c'est une évolution intéressante, même si encore une fois tout est sur lui, tout est grâce à lui, mais quand même on comprend que c'est quelqu'un qui ne peut pas tenir seul, là où des épisodes d'avant c'est quelqu'un qui pouvait largement s'en sortir seul.
C'était le message inverse.
Là clairement il a besoin, et la toute dernière mission dans le film prouve bien qu'il ne peut pas être seul, il ne peut pas faire les choses seul. Donc je trouve que c'est l'évolution de ce personnage qui se pensait exclu et outcast et isolé, qui finalement découvre qu'il fait partie d'un groupe. Et c'est ça que j'ai apprécié dans le film totalement.
Daniel.
C'est vrai qu'il ne peut pas être seul, et c'est vrai qu'il y a un vrai changement dans le personnage de Tom Cruise, puisque je crois que c'est un des premiers films depuis très longtemps où on ne voit pas de torse nu. Et je pense que là, c'est un peu le film. C'est un peu. Tu sens que c'est un moment. Là,
c'est un film de rupture, quoi.
C'est un cap dans sa vie, quoi. C'est
ouais, il a 56 ans, quoi.
Donc voilà, c'est ça l'enjeu.
Peut-être
c'est Tom Cruise.
Il court toujours aussi bien.
Tom Cruise. Oh, Tom, qu'est-ce qu'il court vite.
Putain, ouais.
C'est ouf.
J'allais faire une comparaison avec du football, j'arrête tout de suite.
Il va bientôt avoir 57 ans, et c'est le film où tout se joue pour lui. Et alors, pour moi, Évidemment, Tom Cruise, il devait passer le relais à un moment ou à un autre, et ça devait se faire dans Mission Impossible. Et en fait, non. Si on est un peu Tom Cruiseophile comme je le suis, c'est un film indispensable parce que littéralement, on voit deux femmes qui se passent. Non, c'est pas lui qui passe le relais, c'est deux femmes qui se passent le relais de Tom Cruise. Littéralement, se passe le petit Tom Cruise d'une main à l'autre. C'est génial. C'est vraiment un vrai plaisir à regarder. Après, il y a un truc, c'est que j'aime bien les blockbusters de l'été. J'aime bien quand ça tape, j'aime bien quand ça explose. J'ai beaucoup aimé Rampage, tu vois, alors que c'est complètement stupide.
Non, c'était très bien.
C'est génial.
On a tous aimé Rampage autour de la table.
Je cherche le rapport, en fait.
Et du coup, j'aime bien la tradition du blockbuster. Et celui-là, il me donne exactement ce que je veux. La scène de baston dans les chiottes, elle est absolument géniale. Elle est... jusqu'aux petites mimiques, jusqu'à Henry Cavill qui surjoue un peu des points. Ils sont tous à fond les ballons, et c'est ça que j'aime, en fait, c'est qu'ils y croient. Alors c'est vrai, c'est peut-être pas le film qui aurait fait le passage de relais. Il y a aussi, c'est vrai, des petites longueurs, mais en même temps je trouve pas mal les longueurs, parce que du coup les moments où il y a vraiment des moments où j'ai vraiment eu des petits ah, genre oh putain ça s'arrête enfin, parce que vraiment l'action est quand même très 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 tenue. Il y a des moments je pense aux hélicoptères notamment, puisque
mais oui
mais ça te fait pas chier quoi, que cette scène elle soit entrecoupée de mecs qui coupent des fils en fait pendant 20 minutes
ah bah alors, pas du tout justement, alors là pas du tout moi,
et
alors,
c'est que la scène dure une demi-heure, et t'as littéralement dans la demi-heure t'as 15 minutes de gens qui coupent
Stéphane,
des fils.
Justement Daniel. je trouve que cette partie là ce film réussit à faire bien ce que Mission Impossible 3 faisait mal, c'est-à-dire le côté vie de famille. Vie de famille, ça a toujours foiré à Tom Cruise. Il essaye de simuler, il essaye de faire genre il a une vie de famille, mais oui. Comme il connaît pas ça dans la vie, il arrive pas à bien le jouer. Et Mission Impossible 3 était justement un peu faiblard là-dessus. Et là, tout d'un coup, il y a un truc qui se passe, c'est qu'ils parlent tous, en fait, quelque part de Tom Cruise. C'est assez fascinant, d'ailleurs. Ils sont en train d'essayer de faire la bombe, de couper des fils, et en fait, ils sont tous en train de parler de lui. Je trouve ce film absolument fascinant dans ce qu'il essaye de nous raconter sur Tom Cruise, et je trouve que Michelle Monaghan est vraiment ultra touchante, quoi, parce qu'il y a un moment où ils arrivent, ils disent « Bon, bah, maintenant, on a coupé tous les fils, et on fait quoi ?» Et tout repose sur ses épaules. Je trouve ça... quelque part, je trouve ça vraiment bouleversant, et je m'attendais pas, au contraire, à un truc d'émotion dans un blockbuster comme ça. Moi, je crois que c'est peut-être mon préféré de la série, en fait.
Oh, bah dis donc,
carrément. Non, je crois que c'est mon préféré de la série. Je trouve que le côté Paris magique où ça se téléporte et ça passe du canal Saint-Martin.
Mais pas tant. Je trouve que pour le coup, c'est une course-poursuite qui est assez logique, bon, jusqu'à un certain point, mais très logique dans Paris. Ouais, jusqu'à je faisais, ah, ça s'enchaîne bien.
Jusqu'au canal Saint-Martin, à peu près. On comprend pas qui s'est téléporté dans le 16e.
Ouais, non, mais.
Et y a un truc. Il y a un truc que je trouve vraiment sensationnel dans le cinéma, c'est quand tu commences à faire aïe, tu vois, ce petit moment aïe. Mmh. Et pour moi, le moment aïe type, c'est Luke Skywalker qui se fait couper la main.
Oui.
Et ben là, le moment aïe, tu l'as parce que tu sais que Tom Cruise a tout fait, tu sais qu'il s'est éclaté la bûche à sauter à Londres. Et quand tu le vois en vrai, quand tu le vois sur ton grand écran, et qu'il est en train de courir alors qu'il a la jambe cassée. Et bah...
Oui, mais c'est parce que tu le sais, ça.
Oui, parce que tu le sais.
Mais moi, c'est ce que
j'appelle l'effet Jackie Chan, quoi. C'est que, bah, écoute, ouais, il y a des milliards de prises, ils accélèrent des trucs et tout, mais ça reste du cinéma. Et au moment où tu fais aïe pour le mec, je pense que c'est là où ça commence à bien fonctionner. Donc c'est pour ça que ce film fonctionne pour moi.
La grosse différence avec Jackie Chan, pour moi, c'est que tu le vois dans le générique de fin, en fait, ça. Et le truc, si tu veux, c'est que tu peux pas te poser les questions. T'as plein de films où tu te demandes, en fait, à quel moment ça a été le plus dur à obtenir.
Pré-YouTube, hein, parce que maintenant on parle de Jackie
d'époque, mais le truc c'est que c'est un truc où il le mettait dans le générique de fin, alors que là en fait Tom Cruise il en fait tout son market autour de ça, quoi.
Sauf les voix, il s'est vraiment esquinté et là tout le monde le savait, quoi.
Bah non, t'avais pas internet à l'époque, tu savais pas que sur Mr. Dynamite.
Il a eu deux ans
avant de voir le film, je pense.
Mais en train de comparer deux choses qui peuvent pas exister.
Voilà, c'est ça. Le truc, moi, sur la scène d'action à Paris, c'est qui était un peu mon fantasme de base. Mais bon, j'aurais dû m'y attendre. En fait, le truc qui m'a un poil déçu, c'est que. En fait,
il passe à côté de Bercy.
Bah non, c'est pas tellement Paris, c'est un peu la Macronie, quoi. Si tu veux, c'est-à-dire qu'en gros. Non, mais je veux pas.
Tu dis ça parce qu'il y a Bercy.
Non, je dis pas ça parce qu'il y a Bercy, je dis ça parce qu'en fait, il y a tous les monuments et tous les machins où tous les Ricains ils viennent et ils savent ce que c'est. Tu vois, moi j'aurais bien aimé voir une poursuite dans Barbès, tu vois, avec le mec qui rentre dans Tati, qui passe par la fenêtre, qui rentre sur le, tu sais, qui, enfin, Paris, quoi, tu vois, enfin, je veux dire,
il passe par le parking de Pyramide. C'est quand même chouette, c'est chouette parce
que personne d'autre le fait.
Ouais.
C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'il a cet avantage-là. Mais du coup, en fait, c'est un peu comme la problématique que j'avais avec le précédent où il te montre la super cascade de Tom Cruise au début quand il est accroché à l'avion et t'as rien de plus. Et là, le truc, c'est que pareil, dans la bande-annonce, t'as rien de vraiment de plus à part quelques mouvements de caméra et c'est assez chouette et tout. Et tu te dis, bon, bah, ils ont eu le temps, ils ont eu l'argent, ils ont eu le machin, etc., etc., ils ont eu l'aval, tu vois. Mais en fait, ça fait petit tour de touristique, si tu veux, pour Ricain, en fait, qui vient et en fait...
Alors moi, en tant que Parisien, j'ai eu vraie satisfaction
à voir Garibaldi,
tu passes, et puis, en plus, c'est un moment d'histoire, je me suis dit, peut-être il va prendre des Vélib, peut-être que, dans mes fantasmes les plus fous, il prenait un Autolib et il faisait des...
Ce que je veux dire, en fait, c'est que, si tu veux, c'est un peu comme Amélie Poulain, quoi, tu vois, Paris, c'est pas seulement ça, tu vois, et le truc, si tu veux, c'est que j'aurais aimé, en fait, si tu veux, que d'un seul coup...
Alors, le Paris d'Amélie Poulain, il est difficilement Amélie Poulain, mais bon.
Non, mais enfin, tu sais très bien que pour les touristes, Amélie Poulain, c'est censé être Paris, si tu veux. Oui. C'est ça que je dis, quoi. Tu vois,
je suis pas d'accord parce que dans la base, on commence quand même la majeure partie de la cascade, enfin de cette séquence-là. Alors, à part qu'on traverse plein de rues et en effet des quartiers plutôt bourgeois de Paris, mais quand même, on passe une grande partie de notre temps à Bercy, qui est loin d'être un quartier hyper touristique, qui est loin d'être un quartier très joli en plus. Et je trouve qu'au contraire, on passe beaucoup de temps là-dessus, où on passe beaucoup de temps près d'un canal, où techniquement, on voit rien de ce canal, si ce n'est le bord de l'eau et des fourgons qui passent. Donc clairement, je trouve qu'on voit pas grand-chose.
Ce
en
que
fait,
je veux dire, en fait, si je pousse loin, mais je vais peut-être pas demander ça de la part de Christopher McQuarrie, tu vois, mais c'est j'aurais aimé, en fait, si tu veux, que ça ressemble à Paris, comme dans Die Hard 3, New York, ça ressemble à New York, tu vois, vraiment. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, quand tu vois tous ces passages-là, tu vois tous les gens qui vivent dans cette ville, etc., etc., et c'est ce que j'aurais aimé voir. Et nous, en tant que Parisiens, pour le coup, contrairement aux spectateurs américains ou du reste du monde entier, c'est pas qu'on peut avoir cette exigence, mais on le connaît, en fait, ce Paris-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'aurais aimé, si tu veux, avoir ce truc-là. Mais après, encore une fois, c'est peut-être un fantasme un peu déplacé de ma part. Si
tant qu'il n'y a pas un mec avec une baguette dans la rue, moi, ça me va. Enfin, tu vois, parce que là, j'aurais trouvé
ça
vraiment...
Ah, mais moi, je veux pas un mec avec une baguette dans la rue.
J'aurais trouvé ça grave. Non, justement, je suis contente qu'il n'y en ait pas. C'est-à-dire que j'aurais trouvé ça grave.
Ouais, enfin bon.
Mais c'est-à-dire que je trouvais ça beaucoup mieux filmer Paris-là que, par exemple, récemment, il y avait l'épisode de Sense8, l'épisode final de Sense8, qui se passe à Paris.
Il était génialement baguette fromage.
Mais l'épisode en soi est intéressant pour plein de raisons, mais il y a le Paris filmé dedans, c'est un Paris que moi je ne connais pas et que j'adorerais voir, hein, mais que c'est un Paris que je ne connais pas. Oui. Je connais beaucoup mieux ce Paris que j'ai vu là.
Il y avait même le mime Marceau.
Il y avait tout. Mais donc voilà, non, c'est moi je crois que ça, dans Paris, ça fonctionne plutôt bien et il s'accorde des respirations dans le film, notamment un truc avec une policière que je trouve plutôt réussi, vraiment réussi, mais que c'était pas gagné.
Mais clairement, ça fait partie des trucs. Alors là, ce qui est problématique avec cette scène, c'est la façon dont elle se termine pour moi, si tu veux, mais c'est vrai que ça fait partie des trucs étonnants où d'un seul coup, en fait, il s'autorise des respirations. C'est-à-dire que dans ses longueurs, le film, il s'autorise des respirations à un moment donné qui sont des respirations bienvenues, c'est-à-dire quand je dis des respirations, c'est des respirations scénaristiques. C'est ce que j'appelle le micro, en fait, dans le film, c'est-à-dire les moments où, en gros, si tu veux, d'un seul coup, il s'arrête sur ce détail là c'est une femme flic, elle sait pas comment faire, ils essayent de discuter, c'est de s'expliquer tout ça, etc.
T'as un peu la même chose
dans la scène de baston dans les chiottes où d'un seul coup t'as des clubbers qui rentrent, des Français qui commencent à déconner, etc., etc., avec les types, et
au
tu dis
palais.
Bon voilà comment ça va se passer, quoi.
Du Grand Palais,
mais c'est des trucs où tu dis bah oui, là effectivement c'est Christopher McQuarrie, c'est un scénariste, il sait travailler ces ruptures là si tu veux, il sait les faire fonctionner. C'est clairement pour moi ce qu'il y a de mieux, encore une fois, dans le film, ce genre de petits moments. Bon, je vais pas spoiler la fin de la scène avec la femme flic, quoi, mais je pense qu'il y avait une opportunité ratée. Et le truc, si tu veux, c'est que et surtout pour faire travailler le personnage de Tom Cruise, en fait, un peu plus, tu vois, voilà, parce que là aussi c'est un des autres trucs, en fait, c'est que effectivement il s'est constitué une équipe, et à part un mort, si tu veux, qui est en plus un des trucs les plus tu vois, expédiés, moi je trouve, dans le film, bah t'as pas vraiment de perte d'enjeu, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que même quand ils font revenir la femme de Tom Cruise à la fin, si tu veux, c'est pas un truc où moi j'ai l'impression qu'en fait c'est important pour lui, si tu veux, à ce moment-là.
Ça a fonctionné sur moi.
Et tu parlais de problématiques juste avant. Mission Impossible, les problématiques, elles sont toujours un peu ma boule. Il y avait cet épisode où justement ils jouaient sur le fait que justement les masques, ils arrivent plus à les faire et tout marche plus, et donc là il y avait vraiment un retour au c'est vraiment le béaba, quoi, c'est le masque. Et tu parlais de la problématique du plutonium. Enfin, moi ça m'a changé de la clé USB plantée dans l'eau. C'était le
4. Non, c'est le 5, c'était le 5, c'est le 5, c'est Rob Nation.
Ouais, alors du coup, ouais. Il y a un truc très concret.
Non,
dans,
mais le plutonium,
dans
ce que je veux dire, c'est que c'est Pierce Brosnan dans les années 90, quoi. Tu vois, enfin, chez James Bond, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment des trucs. Voilà, non, mais c'est vraiment des trucs où tu te dis, tiens, enfin, c'est vraiment un device de l'année 80-90.
C'était toujours basé sur le MacGuffin, et surtout, bah, y a le 3 entier était un MacGuffin.
Encore une fois, peut-être encore une fois que je demande trop du film, mais quand le film commence et qu'on t'explique en gros si tu veux que c'est des terroristes, je me suis dit, tiens, ils vont peut-être parler de Daesh de façon un peu, tu vois, détournée. Ouais, mais tu vois, enfin, je veux dire, on est en 2018, quoi. Tu vois,
c'est pas les mêmes terroristes.
Non, mais ils en parlent pas clairement, tu vois.
Non, ça c'est il y a un manque d'explication.
Qu'est-ce que tu veux là?
Non, mais pas du tout. Il y a un manque d'explication à des moments qui, clairement, j'aime pas quand les films sont surexpliqués, mais là, je trouve qu'il y a des moments, ça manque de clarté clairement sur leur thème, sur leur terme, pardon. Et dans la genre, mais de qui vous parlez à un moment donné? Et moi, j'étais un peu paumée par rapport à ça, c'est dommage.
Non, mais pour un film qui se passe à Paris, c'est ça que je voulais dire aussi, si tu veux, c'est qu'à un moment donné, non, mais tout le truc sur quand je parle de Daesh, c'est vraiment une façon, encore une fois, pas de citer Daesh objectivement, mais parler en fait contextuellement, si tu veux, du truc et de dire c'est la guerre qu'on mène actuellement, quoi. Donc, quand t'as une équipe comme Mission Impossible qui vient bosser là-dessus, tu te dis bon bah ça peut être avoir cohérent. Et bon après encore une fois j'attends un film. Enfin je sais que je vais voir un film PG-13. En fait encore je sais que c'est encore un truc où je me dis bon je devrais pas attendre de McQuarrie d'être McTiernan, je devrais pas attendre de Mission Impossible d'être Die Hard, etc. Je sais tout ça tu vois. C'est juste qu'en fait je vois les opportunités, et je me dis merde tu vois c'est dommage en fait que les mecs se tirent des balles dans le pied ou s'empêchent en fait d'aller plus loin juste parce que c'est un PG-13, juste parce qu'il y a Tom Cruise, juste parce que c'est Paramount, que c'est leur tentpole de l'année, qu'ils sont obligés de d'assurer au box office, etc. C'est surtout là.
Surtout
je le vois pas comme un blockbuster, je le vois comme un film, moi, le film. Tu vois, c'est ça le truc, en fait. Hein.
Ok, très bien. Avant de se quitter, les amis, comme d'habitude, on va faire un petit tour de recommandations. Et évidemment, vous êtes libre de vous éloigner du domaine de l'espionnage et de Mission Impossible. Vous faites comme vous le sentez. Qui va commencer? Tiens, Daniel, tu vas commencer.
Bah écoute, c'est une reco de quelque chose que.
Ok, c'est mieux.
Je n'ai pas encore vu, mais alors qui m'emplit de joie. C'est pour vous. C'est pour souhaiter de bonnes vacances. Pour dire que bah voilà, la vie est belle. Il y a un nouveau projet de Sacha Baron Cohen qui vient d'être diffusé hier soir.
Alors, à l'heure où nous enregistrons cette émission, parce que tu dis hier soir, nous sommes censés être en août.
C'est vrai, donc tout le monde a eu le loisir de le voir. Moi, je l'aurais vu déjà 15 fois. Et je trouve que le fait qu'il y ait quelque chose de nouveau de Sacha Baron Cohen, pour moi, c'est de la joie dans mon cœur. C'est mon petit cœur qui fait poum poum. J'ai hâte de retourner, de regarder ça et de l'apprendre par cœur pour te le réciter à la rentrée.
Ah bah,
c'est ce que je ferais. Ça s'appelle
Sushi. Ça a l'air cool. Hein.
Ça a l'air extraordinaire. Cool, ouais. Who is America de Sacha Baron Cohen. Disponible chez votre cousin américain. Il vous enverra, la cassette
la
vidéo.
VHS,
voilà.
Bien sûr. Perrine.
Moi, c'est la course-poursuite dans Paris qui m'a donné envie de parler d'un film que je suis seule au monde à aimer, je pense. C'est G.I. Joe de Stephen Sommers. Je suis seule.
Il y a aussi Martha Sommers, la mère de Stephen Sommers, qui aime beaucoup le film.
Et sa petite fille qui l'a vue quand elle avait 5 ans, maintenant elle l'aime plus du tout.
Parce qu'il y a la Tour Eiffel qui est détruite.
La Tour Eiffel est détruite. Non, mais surtout, il y a une course-poursuite dans Paris qui, pour le coup, n'a aucun sens. Mais aucun sens. Ils prennent un virage, ils ont fait 6 km, les gars. C'est complètement fou. Et moi, ça m'avait beaucoup amusée à l'époque. Et surtout, ben, je suis une vendue à Stephen Sommers de façon assez terrible.
Okay.
Et voilà, le film...
Chacun ses kinks.
Chacun ses problèmes. Ouais. Mais voilà, et le film m'avait énormément plu parce que je le trouve très, très... très, très premier degré, très, très... justement... du vrai et pur divertissement très très généreux ce que c'est faire Stephen Sommers, et moi ça me plaît énormément, même si encore une fois pour le coup là en termes de masque et de je vous ai bien eu parce que je suis pas qui vous pensez, on est bien dedans, et donc en fait finalement c'est le Mission Impossible du pauvre et moi ça me plaît énormément.
D'accord. Mission très possible.
Mission Impossible du bac à jouer.
Alors moi j'ai fait tous les Clint Eastwood qui étaient liés de près ou de loin à Mission Impossible, puisque j'ai fait Firefox, donc qui est un film d'espionnage, j'ai fait La Sanction qui est un film d'espionnage, et dans lequel Clint Eastwood faisait que Tom Cruise avant que Tom Cruise fasse Tom Cruise, c'est-à-dire qu'il grimpait lui-même aussi je sais plus quelle montagne c'est dans le film,
grimpait une montagne,
voilà, c'était assez beau parce que c'était Clint, quoi, tu vois. Donc voilà, donc je sais pas en fait, il y a encore quelques films que j'ai pas traités, il n'y a aucun rapport en fait avec Mission Impossible, voilà, mais je vais recommander Le Maître de Guerre, tu vois, qui est quand même level badass 100, tu vois, pour Clint Eastwood qui joue un bon reclus de l'armée à qui on file une paire de bleu-bites en fait à entraîner, et en fait qui vont partir sur l'île de Grenade pour une mission, la fameuse mission dans les années 80, voilà. Et le truc c'est que je sais pas comment placer ça, du concentré de machisme absolu avec une VF absolument dantesque, Et que je ne vais pas imiter ici parce que non. Et je regarde rarement, mais il y a deux Clint Eastwood que je regarde quand même en VF parce que la VF est complètement hallucinante. C'est limite, c'est le grand détournement, c'est l'épreuve de force et le maître de guerre.
L'épreuve de force, évidemment, la VF
est tellement hallucinante que ça en rajoute encore un petit côté roulage de mécanique, quoi. Donc voilà, donc à l'heure où Tom Cruise commence à ressembler à une pomme rainette, il fait bon de revenir aux valeurs.
Je pensais que t'allais faire quand les aigles attaquent.
Mais je l'ai fait la dernière fois.
Je sais tous faire les Clint Eastwood maintenant, c'est lui qui m'oblige à faire une reco.
Je t'oblige, tu t'es toi-même lancé dans cette mission.
Ouais, mais j'ai fini, ça y est. On avait pas dit que j'avais fini.
Voilà. C'est la dernière mission de la saison, donc oui, tu as
sur les routes de Madison,
maître de guerre, Heartbreak Ridge.
Voilà. Tu pourras dès la rentrée commencer à recommander d'autres films où il n'y a pas Clint Eastwood, qui n'ont pas été réalisés par Clint Eastwood.
Pas des films réalisés par Dieu.
Exactement. Voilà, notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Quentin, la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.